nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, quelle est notre identité au-delà de ce qui figure sur nos papiers officiels? Avons-nous un terreau commun, des ingrédients communs que nous malaxons par la suite, chacun en fonction de notre propre vécu? Si tel est le cas, quelle est la procédure de construction de notre identité? Pour en parler avec nous, le sociologue, directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Kaufmann est avec nous. Jean-Claude Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici à Canal Académie. Alors, avant de parler de l'invention de soi, une théorie de l'identité, qui est le livre sur lequel nous nous appuyons pour ce sujet, avant de parler de l'invention de soi et de parler également d'Agacement, qui est le dernier livre que vous venez de sortir, paru chez Armand Collin, peut-être pourriez-vous nous dire, nous rappeler ce qu'est l'identité pour le sociologue que vous êtes.
Ah, ben alors d'emblée, c'est pas extrêmement simple, parce que il faut le dire, il n'y a pas un consensus. On a l'impression qu'il y a un consensus, c'est-à-dire que le mot est employé de manière banale, je dirais ordinaire, dans la presse, par tout le monde, tous les jours. Il suffit de faire l'exercice, d'ouvrir un journal, d'écouter une émission de radio, et on entend le mot identité à chaque instant, identité religieuse, identité ethnique,
culturelle.
Identité culturelle, crise d'identité de l'adolescent, identité de l'entreprise. C'est un mot de l'époque. Et c'est très intéressant de faire un historique de l'utilisation du mot.
Alors justement, je crois que dans les premières pages de votre livre, donc l'invention de soi, vous dites qu'effectivement c'est très récent et que ça date de l'époque des registres paroissiaux.
Ah oui, alors l'identité du point de vue du haut de la société, du point de vue de l'État. Effectivement, il y a eu une apparition d'un questionnement, l'apparition des papiers d'identité. Les papiers d'identité sont liés à l'émergence de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État, si je pouvais résumer en quelques mots, c'est très schématique. C'est une administration qui se sépare du corps social, c'est-à-dire qu'avant l'État, la communauté se connaît elle-même, donc il n'y a pas besoin, chacun connaît chacun dans le village traditionnel, il n'y a pas un besoin, une nécessité des papiers d'identité. Avec la séparation entre l'État et le corps de la société, l'État a besoin de connaître ses administrés, on va voir apparaître les premiers papiers d'identité. Alors les premières traces effectivement sont les registres paroissiaux, et puis on voit apparaître les papiers d'identité liés aux personnes qui suivent les personnes. Donc, et ces personnes, ces premières personnes qui vont être dotées de papiers d'identité sont celles qui s'extraient justement des communautés stables. Les tziganes, les personnes qui voyagent, les vagabonds, les ouvriers qui vont de ville en ville et qui vont être à qui on va attribuer un livret ouvrier qui définit un petit peu leur histoire. Et puis apparaît la carte d'identité. Alors, tous les pays n'ont pas une carte d'identité. Aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. En France, c'est très récent, c'est 1940, c'est le régime de Vichy. Et la carte d'identité va créer une illusion fondatrice au niveau de la notion d'identité, parce qu'on va croire que l'identité, ça peut être simple. Quand dans la rue, on vous demande vos papiers, montrez-moi vos papiers, finalement, la personne n'est que le double du papier, qui est la preuve de la réalité de l'individu pour l'État. La vérité est dans le papier, qui résume en quelques critères, date de naissance, grandeur, couleur des, autrefois il y avait la couleur des yeux, etc. En quelques critères, la photo surtout, qui résume ce qu'est la personne. On a l'impression qu'on peut faire le tour. Ah, et en réalité, l'identité, c'est tout le contraire de ça, c'est très compliqué.
Et pourtant, quelqu'un qui n'a pas de papier, qui aurait une existence ici sans papier, elle n'a pas d'existence sociale.
Oui, parce que c'est l'existence du point de vue de l'État. Du point de vue de l'État, ça existe. Hein. C'est le chef d'orchestre de la société, donc on ne peut pas fonctionner sans ses papiers, effectivement. On est tributaire de ses papiers. Mais le problème, c'est qu'à partir de cette vision administrative, on a l'impression que l'identité, c'est quelque chose surtout de statique, dont on peut faire le tour, que l'on peut résumer, que l'on peut fixer sur le papier. Décrivez-moi quelle est votre identité, quoi. Et on confond d'une certaine manière l'identification, repérer une personne parmi des milliers et des millions de personnes. Et ça, on peut le faire avec un numéro, le numéro de sécurité sociale, le numéro d'identification. Et puis, l'identité de la personne, c'est-à-dire qui est cette personne? Qu'est-ce qui fonde son existence? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui la définit? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, contradictoire, changeant, très vivant. Donc, on ne peut pas en faire le tour comme ça.
Alors, effectivement, nous n'allons peut-être pas pouvoir en faire un tour bien détaillé, mais peut-être mettre déjà le doigt sur quelques spécificités, puisque nous ne nous résumons pas à notre sexe, à notre taille, à notre nom, à notre adresse, qui figurent, autant d'informations qui figurent donc sur nos papiers d'identité. Qu'est-ce qui ferait que c'est des informations et non pas donc physiques ferait que nous sommes ce que nous sommes et que ça ne se retrouve pas chez l'autre personne en face de nous?
Nous sommes tributaires d'une histoire, nous sommes tributaires d'une certaine biologie, d'une certaine géographie. On ne s'invente pas comme on veut.
Mais on a déjà un terreau commun à la base.
On a donc des critères. On est d'un certain sexe. On mesure telle grandeur, ça, on va pas pouvoir le changer. On a telle couleur de cheveux. Alors déjà, les cheveux, on peut l'éteindre quand même. Mais bon, il y a une couleur naturelle. Alors, le naturel est beaucoup plus malléable qu'on le croit. On a une idée un petit peu fixiste du naturel, mais il est quand même là. Il définit une réalité. Donc, nous avons en nous-mêmes une certaine histoire qui nous définit d'une certaine manière. Mais c'est une histoire quand même très, très complexe, contradictoire. Nous sommes attachés, par exemple, à certaines origines. Mais en même temps, nous sommes originaires de telle région, de telle ville, mais nous vivons dans tel autre, et puis nous avons traversé peut-être encore une troisième, et tout ça, ça a laissé des traces. Donc nous sommes beaucoup plus multiples qu'on ne le croit. Nous sommes de plus en plus multiples à l'intérieur. Et par rapport à cette multiplicité intérieure, il faut sans cesse recoller tout ça et dire à chaque instant de la vie ce qui fait sens d'une certaine manière. L'individu a besoin de reconstruire, ça c'est la société d'aujourd'hui, à chaque instant il a besoin de reconstruire une petite totalité qui fait sens. Ça c'est nouveau parce que dans la société traditionnelle, la totalité, elle était donnée de l'extérieur. Il y avait de toute manière une totalité collective du village. Il y avait une même vérité, un petit peu pour tout le monde, une même morale. Il y avait un sens du bien et du mal. Et l'individu occupait une place qui était dans ce cadre. Aujourd'hui, au contraire, on se définit de plus en plus soi-même. On fait des choix dans tous les domaines, des choix de vie privée, des choix éthiques.
En étant plus individualiste
ou plus autonome. Le mot individualiste connote l'égoïsme, le narcissisme. Alors ça peut dériver vers ça, mais le fond de la question, c'est que on part de plus en plus de soi. Alors c'est pas un soi comme ça abstrait, on n'a pas une liberté absolue. Selon la place sociale qu'on occupe, on n'a pas la même gamme de choix, les mêmes choix ne sont pas possibles, mais il y a un espace de choix. Et ça, on le voit dans les choses les plus ordinaires, comme des achats de produits ou d'appareils. Il y a une gamme de choix qui s'élargit. Autrefois, dans la petite épicerie du village, il y avait l'épicier, vous conseillait son camembert. Il n'y en avait pas 50. Aujourd'hui, dans l'hypermarché, vous avez un espace de choix considérable. On est de plus en plus soi-même face à une gamme de choix qui porte des valeurs, qui porte des systèmes de pensée différents. Donc, il y a un espace des possibles qui s'élargit et qui peut déstabiliser et dissoudre l'individu. Il doit en même temps reconstruire ce qui fait l'unité. C'est là que l'on va retrouver cette quête identitaire. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui va me permettre d'agir de manière claire dans un certain sens?
Alors, en ce sens, je suppose que pour les sociologues et le sociologue que vous êtes, s'intéresser à un pays qui sort d'une période communiste, totalitaire, ça doit être très intéressant, puisqu'on retrouve ces gens qui n'ont plus les repères qu'on leur avait fixés dès le départ.
Il y a souvent un désarroi, il y a une nostalgie
une
qui peut ressurgir parce que la vie était plus simple.
Comme en RDA, par exemple.
Oui, complètement. Alors là, d'un côté, il y a une énergie fabuleuse des gens qui s'émancipent, qui ont brisé les anciens carcans, avec surtout ceux qui ont le plus de possibilités, d'instruments à leur disposition qui leur permettent de développer des projets, d'être un petit peu des vainqueurs dans cette concurrence nouvelle qui s'ouvre. Alors eux, ils vont s'en donner à cœur joie, je dirais, dans ce nouvel espace. Et puis il y a ceux qui sont déstabilisés, qui ont du mal à suivre et qui vont être tentés par le fait de réactiver les anciens schémas qui permettaient de protéger, qui permettaient de savoir où on en était.
Donc, se créer une identité, en fait, c'est très difficile.
Oui,
pour le
on peut réactiver, ça on le voit très bien dans la situation internationale actuelle, on peut, surtout quand on est en situation de fragilité individuelle, de fragilité psychologique, de fragilité sociale, on peut réactiver des anciens cadres religieux ou ethniques qui dans sa tête, définissent la vérité. C'est nous qui avons raison, c'est notre religion, c'est notre croyance qui a raison, opposé à un ennemi, à ceux qui ne comprennent pas. Et ce n'est pas un héritage du passé, c'est une fabrication très moderne. On réutilise, on réactive, on retravaille d'ailleurs ces anciens repères, ces anciennes références pour se sécuriser soi-même.
Alors finalement, l'identité, c'est gagner en autonomie et paradoxalement rejoindre des communautés. C'est être seul au milieu de groupes bien définis.
Oui, on ne peut pas se construire tout seul soi-même. C'est toujours dans l'échange avec les autres, sous le regard des autres que l'on se construit, mais pas forcément en s'enfermant dans une communauté. On a besoin d'appartenance, mais on peut avoir des appartenances multiples et éphémères. On peut participer à un groupe de sport et en même temps être avec tel groupe d'amis et cloisonner un petit peu entre le club de sport et ce groupe d'amis et le milieu professionnel et le milieu familial. On est des individus multiples qui ont... on a des identités à facettes, d'une certaine manière, que l'on gère ainsi. Mais encore une fois, c'est surtout en situation de fragilité, on va avoir tendance à s'enfermer de manière répétitive dans un seul milieu social qui définit la vérité. Et c'est là le risque du communautarisme, comme on l'entend. C'est pas le fait d'avoir une communauté autour de soi, parce que ça, c'est une richesse. C'est une richesse culturelle, c'est une richesse humaine, c'est une richesse sociale. C'est le fait que cette communauté dise toute la vérité de l'individu et surtout que l'individu lui-même s'abandonne à cette communauté, oublie son autonomie, sa capacité à choisir par lui-même.
Mais alors justement, donc vous parliez des autres. Le regard des autres compte-t-il finalement beaucoup dans notre construction au jour le jour de l'identité, de notre identité ?
Oui, il compte beaucoup. Pourquoi ? Parce que nous partons de plus en plus de nous-mêmes pour nous construire. Donc il y a l'angoisse de ne pas être à la hauteur.
Donc le souci de plaire, hein,
C'est plus que le plaire, c'est une demande de respect et de reconnaissance. On doit construire soi-même l'estime de soi. Il y a un déficit généralisé et structurel d'estime de soi avec le risque de la dépression, voire du suicide, etc. Dans la société d'aujourd'hui, on est en demande extrêmement forte auprès des autres, qu'ils vous reconnaissent, qu'ils vous soutiennent, parce que chacun se construit lui-même.
Mais pour parler de reconnaissance, il faut déjà qu'il y ait une connaissance à la base.
Oui, et puis alors c'est là que ça devient extrêmement difficile, parce qu'il n'y a pas équilibre entre l'offre et la demande, si je puis dire. Il y a une demande énorme, généralisée de reconnaissance, et il y a moins d'offres parce que chacun juge chacun, évalue chacun, mais avec ses propres critères. Chacun se construit, c'est la grille identitaire de chacun, et va juger les autres à partir de sa propre grille. Par exemple, X va me dire, moi j'ai réussi dans la vie parce que je gagne beaucoup d'argent, sous-entendu, toi ça n'a pas l'air terrible ta situation, mais je peux lui répondre, ou même je lui réponds rien, mais je pense en secret, mais qu'est-ce qu'il croit lui, c'est pas l'argent qui compte dans la vie. D'ailleurs, il est divorcé, il vient de divorcer, il a raté sa vie privée, etc. Donc, nous ne sommes jamais évalués au niveau où nous nous évaluons nous-mêmes, nous nous évaluons au-dessus. Donc le risque de déprime, de déficit d'estime de soi qui augmente encore la quête de reconnaissance.
Mais ces grilles identitaires existent depuis très récemment ou elles ont toujours existé ?
Non, elles ont toujours existé, mais autrefois elles étaient en correspondance avec les grilles officielles de la société. Il y avait un aller-retour, un effet de miroir entre les grilles personnelles et les grilles collectives. Aujourd'hui, les grilles collectives, elles existent de moins en moins. Il y a de moins en moins de valeurs communes et partagées et chacun définit ses propres critères, notamment du sens du bien et du mal. Dans mes enquêtes, souvent, je pose la question c'est bien ou c'est mal? Et j'aurais fait ce métier il y a 50 ans, je ne le faisais pas encore, même si je suis un vieux chercheur, on m'aurait répondu c'est bien ou c'est mal. Et aujourd'hui, la phrase que j'entends, c'est chacun fait ce qu'il veut, dans tout le domaine de la vie privée. La phrase exacte, d'ailleurs, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais, c'est-à-dire que c'est exactement comme je ne suis pas raciste, mais d'ailleurs, la phrase est très construite. Il y a la première partie qui est affirmée de manière forte et nette, parce que les gens sont contents d'affirmer ce principe de liberté et de tolérance. Chacun fait ce qu'il veut. Comme ils sont très sincères dans l'enquête, ils se sentent obligés de rajouter quand même mais quand même, la vie privée, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, un couple homosexuel, par exemple, bon, bah, c'est pas terrible pour les enfants, ou que sais-je, etc. C'est-à-dire, plus nous avançons dans cette société de liberté apparente, plus il y a un double langage de la société, une liberté de surface, et puis des normes secrètes qui ressortent dans des regards, dans des petites phrases, dans des non-dits ou dans des faiblement dits.
Donc finalement, la première phrase que l'on va dire, c'est pour satisfaire tout le monde, pour paraître bien aux yeux
mais
de tous.
Mais on est sincère quand même. Et on fait un effort dans ce sens-là. On fait l'effort réel dans le sens de la liberté et de la tolérance. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais une société ne peut pas fonctionner sans normes.
Mais c'est dans une partie d'intégration sociale pour plaire aux autres, à l'ensemble de la communauté, pour ce besoin de reconnaissance.
Oui, mais c'est aussi avec, je dirais, avec sincérité, on veut avancer dans le sens de cette liberté et de cette tolérance, mais on ne peut pas y aller radicalement, totalement. C'est impossible parce que la société a besoin de normes pour fonctionner, mais du coup, ces normes deviennent implicites, secrètes.
Alors, dans le rapport à l'identité, dans votre dernier livre que vous venez de sortir, Agacement, vous faites également le rapprochement de l'identité dans le couple, hein, puisque le couple, la vie quotidienne, c'est ce qui fait votre marque de fabrique, Jean-Claude Kaufmann. Au milieu du livre, il y a donc une partie sur les facettes identitaires. Alors, on replace peut-être un peu dans le contexte. Hein, dans ce livre-là, vous parlez des agacements du quotidien au sein du couple. Et vous expliquez dans ce petit paragraphe que finalement, ces agacements, ce ne sont pas des agacements anodins et que c'est quelque part pour... ça traduit une mutation de l'individu qui est en rébellion par rapport au couple, en fait, qui ne fait plus qu'un.
Oui, alors moi c'est ma manière de travailler. Hein. Je suis un sociologue qui part de l'enquête très concrète et dans l'enquête très concrète, je prends des tout petits espaces, des tout petites choses, parce que ça me permet de creuser très profondément et de voir comment l'individu fonctionne. Alors effectivement, l'agacement, c'est une piste extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'agacement ? C'est une émotion. Une émotion qui apparaît, qui est négative, mais qui peut jouer un rôle positif dans un ensemble plus large. Comment la définir ? D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un espèce de petit coup de foudre à l'envers. Le coup de foudre, c'est une émotion qui attire vers l'autre. Alors ça, du point de vue identitaire, c'est passionnant, parce que c'est une émotion qui fait oublier les anciens critères de définition. On est prêt à devenir un individu malléable qui va changer, justement, son identité, construire une nouvelle identité à deux, pas forcément aller vers le monde identitaire du partenaire, mais aller vers une construction à deux d'un nouvel univers par la vertu de cette émotion. L'agacement, c'est dans l'autre sens.
Donc vous faites partie des gens qui pensent qu'on peut changer par amour, pour le coup.
Oui, bien sûr. Mais oui, je suis souvent un petit peu critique, pessimiste, mais je suis aussi optimiste à certains moments. Oui, heureusement. Alors ça, c'est passionnant dans la société d'aujourd'hui, parce qu'on est dans une société du contrôle de soi. On veut maîtriser sa vie, maîtriser son avenir, à maîtriser intellectuellement, faire les meilleurs choix. Et en même temps, effectivement, l'engagement amoureux, et pas forcément avec un coup de foudre extraordinaire, l'engagement amoureux, c'est se lâcher, c'est s'abandonner, c'est accepter de lâcher prise. Et sinon, l'engagement en couple est impossible. Il y a un peu le rêve aujourd'hui, rêve illusoire, de pouvoir rester soi-même avec sa vie, ses rythmes, ses idées, et de rajouter l'autre à côté. Or ça, c'est impossible. C'est absolument impossible. Il faut accepter, d'une certaine manière, de mettre à mort un peu l'ancienne identité, de s'abandonner, de lâcher prise. Mais, pour en revenir à l'agacement, c'est pas toujours évident, parce que dans le couple, on va aller vers l'autre, mais après le couple s'installe dans la vie quotidienne et...
Il y a des petits tracas, des petits travers.
Oui, c'est-à-dire qu'on va construire un univers nouveau commun à deux, mais sans effacer totalement l'ancienne personne, notamment dans les fondements implicites des automatismes gestuels. On va garder sa microculture de la bonne idée de la place des objets, du rapport au temps et... Un certain nombre de petits gestes de l'autre vont surprendre, choquer, agacer, c'est-à-dire qu'ils sont dissonants par rapport à l'idéal que l'on a dans la tête, qui, pour soi, est l'évidence absolue. Quoi. On ne comprend pas qu'il puisse avoir cette autre attitude. Et quand on tombe sur cet objet ou sur ce geste, il va y avoir cette émotion négative qui ramène vers soi-même, qui extrait du couple. D'un seul coup, on retrouve ces anciennes évidences. Et c'est là que je parle de facette identitaire, c'est-à-dire que, en quelques secondes, on passe d'un univers de référence qui est celui de l'individu conjugalisé, un autre univers de référence. On retrouve ses propres évidences de l'individu individuel, d'une certaine manière.
Donc finalement, l'agacement traduit, c'est le symptôme d'un retour épisodique, en tout cas.
Oui, très bref en général. Je disais petit coup de foudre à l'envers, c'est-à-dire que d'un seul coup, sous le coup de l'émotion, on est extrait de la société, on revient vers soi-même, et souvent très rapidement, sous l'effet d'ailleurs assez souvent de la réflexion plus rationnelle, on constate que c'est une impasse, qu'on ne va pas pouvoir aller très loin dans ce petit moment de parcours très individuel et qu'il faut revenir vers le partenaire. C'est là qu'on voit que l'amour au quotidien est quelque chose de très vivant qui se construit sans cesse parce qu'après la crise, il faut reconstruire l'envie de retourner vers le partenaire.
Eh bien, merci Jean-Claude Kaufmann. J'invite nos auditeurs à écouter l'émission suivante sur agacement où nous allons parler un peu plus en détail de ces petits tracas quotidiens du couple. Je vais quand même reprendre les deux ouvrages qui nous ont servi à préparer cette petite émission. Le premier, c'est L'invention de soi, paru en 2004. C'est une réédition, il me semble.
Édition poche, oui.
Édition poche chez Hachette Littérature. Donc par Jean-Claude Kaufmann, notre invité d'aujourd'hui. Et puis le second livre qui vient de sortir, Agacement, les petites guerres du couple, paru chez Armand Collin, toujours Jean-Claude Kaufmann. Merci beaucoup, merci d'être passé nous voir. Et puis je vous dis à très vite alors pour une nouvelle émission sur Agacement cette fois-ci. Ce sera au fil des pages. Merci, au revoir.